6h03, bonne journée, bienvenue au 98.5 FM, nous sommes mardi 11 août, avec des prévisions météo qui sont pas très très intéressantes pour aujourd'hui. En résumé, ce qu'on peut vous dire ce matin, c'est que c'est une journée chaude, une journée humide, ce qui veut dire qu'en après-midi et en soirée, on a un potentiel d'orage assez violent et de pluie forte. Alors si on commence, c'est sûr que ce matin, c'est un ciel généralement dégagé, autour de 22 degrés. On prévoit du soleil pour le début de journée. Ça se couvre en après-midi avec possiblement de la pluie. Risque d'un orage également violent. Le maximum aujourd'hui, c'est 32 degrés et l'humidex autour de 40. Et en soirée et durant la nuit, encore là, à cause de l'humidité, de la chaleur, et bon, ça veut dire qu'il y a un potentiel aussi de pluie. Demain, mercredi, c'est du temps ensoleillé, 29 comme maximum. Jeudi, du soleil 29, vendredi du soleil 27, et même pour le week-end, on prévoit du soleil avec des températures de 28-27. Donc aujourd'hui, en gros, là, je pense aux gens qui travaillent à l'extérieur ou dans des endroits qui ne sont pas, disons, aérés et climatisés, ça va être très, très chaud, très humide, et donc un potentiel de pluie important pour la journée. Vous avez entendu Marie-Laurence décrire d'abord la découverte de ce fœtus à Laval, et également cet enfant qui a eu des mauvais traitements. Personne d'arrêté. On tente de comprendre ce qui est arrivé. Pourquoi cet enfant-là de 3 ans, avec des blessures récentes et des blessures anciennes, s'est retrouvé à l'hôpital et finalement à Trois-Rivières, là, et puis finalement à Sainte-Justine. Ce sont des nouvelles d'une tristesse. La violence faite aux enfants, il faut en parler. On a tous hâte que Régine Laurent dépose le rapport, bien qu'il y ait eu déjà des recommandations. Mais ce matin, c'est la Commission des droits de la personne et de la jeunesse qui nous arrive avec un rapport additionnel. De son propre chef, la Commission a décidé d'enquêter sur la mort de cette fillette à Granby en 2019. Et la Commission conclut des manquements, je cite, là, à toutes les étapes du processus clinique et légal visant à protéger la jeune victime. Je cite la vice-présidente qui dit « Combien d'enfants devons-nous encore pleurer? Combien d'enfants allons-nous laisser être victimes de maltraitance, victimes de notre tendance à banaliser l'inacceptable? Qu'entre notre système de protection, au-delà des mots, prendra-t-il le parti des enfants et de leurs droits? » Suzanne Arpin, vice-présidente de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse. On sait à peu près ce qui est arrivé. C'est un enfant qu'on a échappé. Et vous savez qu'au Québec, il n'y a personne d'imputable. C'est le système, c'est le contexte. On a vu comment la bureaucratie a tenté de protéger ce qui est arrivé, là, et surtout les réputations. C'est bien important pour la DPJ, là, dans ces cas-là, de se protéger. Mais comment ça se fait que cet enfant-là n'a pas fait l'objet d'un meilleur suivi? Comment ça se fait que les ordonnances régulièrement de la Cour ne sont pas respectées? Manque de ressources, manque de formation, c'est toujours la même chose. Mais c'est ça qui devient comme frustrant parce que c'est toujours la même chose. On parle d'une fillette qui est décédée. Il y a une enquête qui a été faite et on attend le suivi. Concernant la mort d'un autre enfant, je vais retrouver, je pense, les coordonnées, là, c'était en 2017, au Saguenay. C'est ça, Saguenay-Lac-Saint-Jean, 2017. Un enfant qui est mort suite à de la maltraitance, il y avait des recommandations. Puis là, on attend encore les réponses des CIS et des CIUS. Ça, c'est la boîte. Ça, c'est la machine à travers le Québec. Donc, ça fait bien des nouvelles tristes concernant des enfants ce matin. Parlons maintenant du plan annoncé par le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge. Il y avait beaucoup d'attentes et M. Roberge a été assez critiqué depuis le début. Hier, ce qui a été présenté, c'est un plan sanitaire pour la rentrée scolaire. Comment on va procéder? Puis là, on comprend là, que dans les aires communes, dans les écoles, les enfants devront porter le masque pour les enfants donc de 10 ans et plus. dans les faits, là, à partir de la cinquième année. Et évidemment, au secondaire. Je ne parle pas ce matin du collégial ni des universités. Alors, ça veut dire que dans la classe, puis dans la salle de récréation, en fait, à la période de récréation, mettons à l'extérieur, il n'y aura pas de masque obligatoire. Et là, les parents devront équiper leurs enfants de masques. J'entends déjà crier. Les profs, personnel de l'école, auront droit à leur masque. Et là, la fameuse bulle n'existe plus. C'est la classe qui devient la référence. Et on nous promet que s'il y a des cas, ben les parents seront rapidement informés, puis il y a des mesures qui seront prises pour tester. Ultimement, on pourrait fermer l'école, désinfecter l'école. Bon, je pense que c'est assez clair. Là, je reçois plein de courriels de parents qui sont inquiets. Les parents, par définition, on est toujours un peu inquiets. Mais je pense qu'il y a comme un consensus très large. Puis là, je parle en général. Je ne parle pas de cas spécifiques d'enfants qui ont des problèmes de santé. Mais le retour à l'école s'impose. Les enfants ont besoin d'être en classe. Pour beaucoup d'entre eux, ça facilite l'apprentissage. Ils ont besoin de socialiser. L'humain a besoin de ces contacts-là. Puis oui, il faut prendre certaines mesures. Il faut se laver les mains. Puis c'est sûr que de garder une distance dans les écoles avec des enfants, c'est pas simple. Mais je regardais des études hier, une espèce de résumé de plusieurs études, qui montrent que l'école n'est pas un lieu de propagation de virus tant que ça. Il y a d'autres milieux qui sont, disons, plus à risque ou dangereux. Puis oui, il y a des enfants qui vont avoir la COVID. On regardait aux États-Unis, il y en a eu beaucoup récemment, mais on n'est pas tout à fait dans le même contexte ici au Québec, même si ça demeure, disons, assez élevé. On n'est pas là comme en Floride ou dans d'autres États américains. Alors, tout ça pour vous dire que sur le plan sanitaire, ça m'apparaît très clair. Sur le plan pédagogique, là, beaucoup de parents se posent des questions. Je donnais des exemples ce matin de sport-études. Est-ce qu'on va pouvoir pratiquer certains types de sport? Comment l'école va s'ajuster? Je vais vous donner un exemple ce matin. Je pense que ça résume assez bien plusieurs cas d'enfants qui ont des besoins. C'est un monsieur qui m'écrit, qui dit « Je suis père d'un enfant de 7 ans qui est sévèrement autiste. » Il est avec plusieurs enfants dans une école spécialisée. Des enfants, là, ça varie de 6 ans, puis on n'est plus dans les enfants, là, 21 ans. C'est des cas lourds. Plusieurs handicaps physiques, intellectuels, de sévères à modérés. Nos enfants ont besoin d'aide pour se nourrir, s'habiller, se laver les mains. Plusieurs sont encore avec des couches et ont besoin d'assistance. Mon fils ne peut porter le masque. Qu'à 7 ans, il ne sera pas obligé de le faire. Là. Et il ne comprend pas ça, lui, l'importance d'avoir cette distance-là. Qu'est-ce qu'on fait avec des enfants comme ça? Qu'est-ce qu'on fait avec des enfants qui ont aussi besoin d'une stabilité, d'être entourés de professionnels, mais qui ne vont pas respecter la règle parce qu'ils ne comprennent pas? Comment va se passer l'enseignement à distance? Qu'est-ce que tu fais avec un enfant qui est immunosupprimé, quelle sorte d'enseignement à distance il va avoir. Puis là, il y a des profs aussi qui ne peuvent pas enseigner là, pour toutes sortes de raisons. Ou des enfants qui n'ont pas de problème de santé, mais dont le parent a un problème de... Bon, il y a cet aspect-là à gérer, mais ça va se passer comment dans les écoles? Et je serais porté de dire ce matin, quitte à me faire encore une fois lancer des pierres, là, je vois beaucoup de réactions de profs qui disent « Ouais, mais là, ça, si, est-ce que c'est moi... » Je comprends tout ça, là. Mais est-ce qu'on pourrait être un petit peu positif quand même, puis se dire, là, il y a une rentrée scolaire, les enfants ont besoin d'être là. Beaucoup de profs m'écrivent aussi parce qu'ils ont hâte, puis qu'ils ne voient pas ça comme la fin du monde. C'est une période d'ajustement. Puis oui, il y a des décisions localement qui doivent se prendre. Mais le ministère a tracé quand même les paramètres. Et là, il y a d'autres questions sur le plan pédagogique. Puis ramenons ça à la question fondamentale. Votre kid, y est-tu mieux à la maison devant un écran ou devant un prof à l'école avec ses amis? Puis comment est-ce qu'on fait pour que ça fonctionne? Avec les mesures les plus faciles à appliquer. T'sais, je regardais dans d'autres écoles dans le monde, il y a une prise de température quand les enfants rentrent à l'école. Moi, je suis allé chez le dentiste pendant mon congé. Je suis arrivé là, le petit bidule, ils prennent ta température, ça prend un quart de seconde, puis c'est fini. Ça ne règle pas tout, mais c'est une façon aussi. Si un enfant arrive avec de la fièvre, ben, tu peux peut-être déjà là l'isoler, puis voir, puis bon. Alors, je pense que de façon globale, même les syndicats, jusqu'à maintenant, j'ai entendu que c'était, somme toute, pas trop négatif. Pas trop négatif. Mais des fois, c'est comme, tu dis, est-ce que l'initiative existe? Peux-tu quand même prendre des décisions? Pas avoir ça téléguidé à chaque fois qu'il y a un mode d'emploi de 83 pages pour te dire quoi faire. Puis je vois de jeunes profs qui m'écrivent puis qui sont ouverts à ça, motivés. Et d'autres plus grognons qui, tu sais, mais là, c'est pas faisable, puis là, c'est dur, puis là, là quand est-ce que je vais à la toilette? Puis écoute, là, c'est un prof qui m'écrit ça. Il dit, quand je vais changer de classe, quand... Hey, t'attends-tu un mémo du ministère de l'Éducation pour dire comment tu vas gérer ton heure aux toilettes ou comment ça va se passer? Voilà. Il est 6h15, M. Brière, les points chauds. Merci beaucoup. Un sujet qui, malheureusement encore, revient dans l'actualité, le sort de parents qui sont aux prises avec un jeune homme, à peu près tout le temps ça, là, problèmes de santé mentale et problèmes de consommation de drogue. Je vais parler tantôt avec Nathalie Dubois. Elle est la mère d'un jeune homme qui s'appelle Jimmy, il a 28 ans, et il est touché par des épisodes de psychose toxique violent. Et rappelons-nous, cet été à Drummondville, cette femme, Suzanne Desjardins, on verra la suite du procès, mais possiblement assassinée par son fils de 32 ans, elle avait averti la police que son fils avait besoin de soins, d'être évalué sur le plan psychiatrique. Et le soir même, elle a été retrouvée morte à son domicile et son fils de 32 ans a été arrêté. Alors, Mme Dubois, elle a 4 enfants et elle habite présentement avec sa fille, la plus jeune, qui a 5 ans. Jimmy, lui, a des problèmes de santé mentale depuis des années. Alors, il prend du pot, du speed, de l'alcool. Il est suivi par un psy à Trois-Rivières. Et là, ce qu'on remarque, c'est depuis les dernières semaines, sa situation s'est détériorée. Il est agressif, violemment, en fait, verbalement et physiquement. Il crie, Dieu lui parle. Désorienté, déconnecté, il n'y a pas de jugement, puis il est incapable d'autocritique. Ça va bien. Il a entre autres menacé un ami, giflé son père, brisé des objets, fracassé des vitres, menacé sa mère. Je vous fais grâce de d'autres détails, mais un qui est important. Le 14 juillet, le père de Jimmy dépose une demande pour forcer l'hospitalisation de son fils. On va le chercher et on l'amène à l'hôpital. Le 16 juillet, le jeudi, le procureur dépose une demande de prolongation de séjour. Là, il y a 2 évaluations. Une qui dit qu'il faut le garder 7 jours au moins, puis l'autre 21 jours. Le juge dit 7 jours d'hospitalisation supplémentaire. Après ça, on décidera. Ça, c'est le jeudi 16. Le dimanche 19, Jimmy appelle sa mère pour dire qu'il vient de sortir de l'hôpital, il a eu son congé. Avant même la fin de la décision rendue par le juge. Madame a peur. Avec raison. Dernière nouvelle, il est dans une espèce de maison de chambre. Et que là, parce qu'il a fait une tentative d'introduction par effraction chez sa mère, il s'est barricadé dans un cabanon. Madame a peur d'être avec sa petite fille de 5 ans. Les droits de madame passent après ceux de monsieur, Jimmy, dans ce cas-là. Il ne peut pas forcer quelqu'un à soigner. Il ne peut pas forcer quelqu'un à arrêter de consommer. Mais il est fou, puis il est dangereux quand il consomme. Il y a combien de parents qui sont aux prises avec de jeunes adultes qui ont des problèmes de santé mentale jumelés avec consommation de drogue. Puis on a vu ce cas donc à Drummondville. Aussi dans les autres nouvelles ce matin, il semble que les jours soient comptés pour le ministre des Finances Bill Morneau, que Justin Trudeau a maintenant un conseiller depuis quelques semaines, Mark Carney, qui est l'ancien gouverneur de la Banque du Canada, la Banque d'Angleterre. Et là, le Globe and Mail nous dit que M. Trudeau pense que Bill Morneau n'est plus l'homme de la situation pour préparer l'après-COVID, la reprise économique après les orgies de dépenses. On va prendre un plan de redressement économique. Et M. Trudeau, ben, émet des doutes. Et là, des noms. Chrystia Freeland, notre ami François-Philippe Champagne, Jean-Yves Duclos sont les noms qui apparaissent comme étant de candidats potentiels au poste de ministre des Finances. Il y a quelque chose que je m'explique mal. C'est peut-être l'été, c'est peut-être la COVID, là. Mais là, on a un gouvernement avec un ministre des Finances qui a dû admettre qu'il vient de repayer il y a quelque temps plus de 40 000 $ de dépenses de voyage pour lui et sa famille. Il avait obtenu ça de UNI, là, We Charity, un organisme qui a obtenu un contrat, un organisme qui, je le rappelle, a versé des montants à la mère de Justin Trudeau, à son frère. Justin Trudeau, semble, n'était pas au courant, n'a pas jugé bon se retirer du processus. Puis on apprend aujourd'hui, en fait, au cours de la fin de semaine, que le conjoint de la directrice de cabinet de M. Trudeau est dans une entreprise qui a obtenu aussi un autre contrat pour gérer un autre programme fédéral d'aide aux entreprises. Genre de programme qui est tellement compliqué que peu d'entreprises appliquent parce que c'est trop lourd. Il y a des questions d'éthique qui se posent là-dedans, là. Puis là, est-ce qu'on essaie de nous faire croire qu'on va tasser Morneau parce qu'on pense que c'est plus l'homme de la situation ou parce qu'il est devenu embarrassant? Comment quelqu'un peut partir en voyage sur le bras d'un organisme de charité puis dire « Ah, j'avais oublié de rembourser 41 000 $ Quand même assez, assez extraordinaire. Un mot sur le Liban. Démission du gouvernement, mais ça ne calme pas la foule. Les gens sont en colère. Et ce matin, l'agence Reuters rapporte que des responsables avaient signalé que le nitrate d'ammonium conservé dans le port pouvait détruire Beyrouth, et ça quelques semaines seulement avant l'explosion. Quand je dis quelques semaines, là, c'est deux semaines. Les produits chimiques ont provoqué cette explosion, je vous le rappelle, tuant 163 personnes, blessant plus de 6000 personnes. Les images sont terrifiantes, le bilan est lourd. Le Canada qui a annoncé encore une fois une augmentation de l'aide. Le gouvernement du président Aoun et du premier ministre démissionnaire Hassan Diab est visé par des allégations de corruption depuis des années. Le contenu de la lettre n'a pas été reproduit dans le rapport que Reuters a pu obtenir, mais que c'était un résumé d'une enquête judiciaire débutée en janvier et qui concluait que les produits chimiques n'étaient pas gardés de façon sécuritaire. Et on sait qu'il y a toujours du côté du gouvernement pour se protéger l'espèce de théorie voulant qu'une main extérieure, un autre pays, un groupe, une force aurait pu provoquer cette explosion. Or, les enquêtes internes montrent que c'est de la pure négligence, que ces stocks aient été gardés de façon dangereuse pendant des années et que donc le gouvernement avait été prévenu du potentiel que ça représentait. Ça fait le tour de nos manchettes, revue de presse ce matin. 6h23, on va aller voir ce qui se passe au tunnel La Fontaine.